Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. La médecine générale est devenue une spécialité à part entière et les médecins généralistes participent aussi à la vie universitaire et à la recherche. À l'occasion du congrès du Collège National des Généralistes Enseignants, qui aura lieu dans quelques jours à Lyon, j'ai le plaisir d'accueillir son président, le professeur Olivier Saint-Lary. Le plus compliqué, c'est toujours après l'investissement, c'est ce que va nous dire Samantha Jérusalemi, partenaire chez Elaya, le leader européen du capital risque, dans le domaine du numérique et de la deep tech. Vous connaissiez La Poste, eh bien vous connaîtrez DocaPost, sa filiale numérique, entre autres premier opérateur de données de santé en France avec plus de 45 millions de dossiers médicaux. Le groupe a annoncé la création il y a à peine un mois de La Poste Santé et Autonomie avec l'ambition de devenir un partenaire de référence des acteurs santé et devenir le leader du numérique en santé à l'horizon 2030. Son patron Dominique Pont est avec nous sur le plateau de Check-up Santé. Et sans oublier, bien sûr, la chronique de Rémi Teston. Check-up santé, c'est parti. Olivier Saint-Lary, bonjour.
Bonjour.
On peut dire que vous êtes un hyperactif quand même, vous avez quelques casquettes. Vous êtes médecin généraliste à Poissy, vous êtes professeur de médecine générale à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, vous êtes chercheur à l'INSERM et président du CNGE, le Collège National des Généralistes Enseignants. Vous arrivez à dormir de temps en temps ou pas?
J'y arrive.
Ouais. Vous y arrivez? Donc vous êtes généraliste pratiquant, vous êtes universitaire et chercheur. Franchement, bravo. C'est vrai qu'un généraliste, on l'imagine plus à son cabinet, mais peu comme enseignant. Je sais qu'on a tort. On a tort ?
On n'a pas nécessairement tort, parce que c'est l'héritage de l'histoire en France. Le système de santé français s'est structuré autour des ordonnances de Bray en 1958. Et il a consacré l'hôpital, le CHU, comme le lieu de la formation et de la recherche en santé. Ce qui a permis des grandes avancées, mais ce qui a aussi eu quelques effets pervers, notamment l'absence de développement de la recherche ambulatoire. Et les grosses difficultés de formation des médecins généralistes, et on le constate aujourd'hui malheureusement, les manques d'installations qui sont probablement en partie liées à cette organisation du système très hospitalo-centré historiquement et qu'on essaye progressivement de corriger.
Alors justement, c'est vrai qu'il y a une pénurie de médecins généralistes en France, mais on a l'impression qu'il y a une meilleure attractivité donc vers cette spécialité. On le voit peut-être au choix des internes.
Absolument, absolument. Le choix de l'ECN avant la création de la spécialité universitaire de médecine générale était très délaissé. Historiquement, quand vous passiez l'internat, soit vous réussissiez et vous choisissiez une spécialité, soit vous ne le passiez pas ou vous échouiez, vous étiez généraliste de fait. En 2004 et 2005, il y a eu un changement majeur avec l'introduction de la médecine générale. Tous les internes passaient le concours, enfin tous les étudiants passaient le concours pour devenir interne. Et les premières années, globalement, les moins bien classés étaient médecins généralistes et on avait énormément de postes vacants. En 2005, par exemple, vous aviez plus de 600 postes vacants au concours de l'internat pour la médecine générale. On en paye les conséquences aujourd'hui. Dans les années 2010, vous aviez toujours au moins 10% de postes vacants. Et au fur et à mesure, depuis que les étudiants découvrent ce qu'est le métier de médecin généraliste lors de stages...
Parce qu'ils ont des stages obligatoires.
Exactement, parce que désormais ils ont des stages. C'était fou avant d'imaginer que la moitié des médecins allaient devenir médecins généralistes, mais qu'aucun ne l'avait découvert dans le cadre de ses études. Et depuis qu'ils le découvrent, depuis que c'est enseigné à l'université, on n'a presque plus aucun poste vacant au concours. On a plus de 99% des postes qui ont été pris sur les trois dernières années. Et... ce n'est qu'un symbole, mais les symboles sont parfois importants. La major de l'ECN a choisi médecine générale il y a 2 ans, ce qui n'était évidemment jamais arrivé auparavant.
Alors, 10 ans d'études quand même pour un médecin généraliste, c'est pas un petit peu long, non? À l'époque des nouvelles technologies, de la réalité virtuelle, de la 3D, des simulateurs, non? Très rapidement.
Alors, je partage votre interrogation sur les premières années des études de médecine, peut-être que... Vous comme moi, je crois, on a appris à dessiner toutes les molécules du glucose dans tout le cadre du cycle de Krebs. Et peut-être que certains de ces éléments pourraient être non pas abandonnés, mais en tout cas peut-être un peu allégés. Par contre, il me semble qu'à contrario, les éléments de professionnalisation et de prise sur le terrain doivent être renforcés. Et que cette formation, notamment dans le cadre du DES, Elle va l'être renforcée. Vous l'avez dit, on est passé d'un DES à 3 ans à un DES à 4 ans. Et il me semble que de ce point de vue, ça va exposer plus les jeunes collègues à leur futur métier et faciliter, je l'espère, leur installation.
Rapidement, qu'est-ce qu'un maître de stage ?
Alors, un maître de stage universitaire, c'est un médecin généraliste qui exerce en tant que médecin généraliste, mais qui accueille dans son cabinet soit des externes, donc des étudiants de deuxième cycle, qui vont plus être là pour observer comment les choses se passent, soit des étudiants de troisième cycle, donc des internes, et qui, eux, vont progressivement pouvoir devenir autonome et exercer sous la supervision du maître de stage des universités.
Il y en a de plus en plus, non, j'imagine.
J'espère. Plus en plus, ouais. On est passé dans les années 2005 à peu près 3000 maîtres de stage. 2011, on a passé le cap des 5000. Et là, le décompte vient d'être fait. Donc, je peux vous l'annoncer en quasi-exclusivité. On est à 12 790. Donc, ce qui est une très, très belle progression. Ça représente plus de 20% du corps professionnel des médecins généralistes installés.
Alors, pour finir, vous présidez le Collège national des généralistes enseignants dont le congrès fête ses 40 ans.
Le collège fête ses 40 ans.
Donc, il va se tenir à Lyon dans deux, trois jours. Hein. Et quelle est sa mission en une phrase ?
C'est de présenter à l'ensemble de la collectivité les évolutions en matière de recherche, d'enseignement, mais aussi de qualité des soins. Et donc, l'ensemble de ces évolutions vont être présentées. Et cette année, on va...
Vous attendez beaucoup de monde, je crois.
Ouais, on va dépasser les 3000 participants. Donc, ce qui est...
Donc, vous affichez complet au niveau de sécurité. Complet,
c'est ça, exactement. Ouais. On va devoir fermer les inscriptions demain ou après-demain. Mm-hmm.
Ça change, c'est pas toujours à Lyon, non, les congrès du CNGE?
Non, ça change. Ouais. Chaque année, c'est dans une nouvelle subdivision universitaire. L'an dernier, c'était à Lille, avant à Bordeaux. L'an prochain, ça sera à Strasbourg.
Est-ce qu'il y a un thème particulier cette année ou pas?
Alors cette année, la grande plénière sera centrée sur la question de la qualité des soins et de voir comment celle-ci peut s'enseigner et comment la recherche peut y contribuer, comment la dynamique universitaire doit la favoriser.
Est-ce qu'on peut concilier qualité des soins et rémunération un peu trop faible, non, des médecins généralistes? En deux mots.
Ça fera partie des questions qui seront abordées. La directrice déléguée de l'assurance maladie devrait être présente dans la plénière sur la qualité des soins, donc ça fait partie des sujets qui seront abordés. Après... Notre rôle n'est pas d'interférer avec les négociations conventionnelles. Les universitaires ne sont pas des syndicats, donc nous respectons notre rôle.
Merci beaucoup Olivier Saint-Lary, merci beaucoup. Je suis sûr que vous donnez envie aux étudiants d'être médecin généraliste, la plus belle des spécialités. On va à présent accueillir Samantha Jérusalemi, partenaire chez Elaya.
BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Samantha Jérusalemi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez un background universitaire sympa quand même. Hein, vous avez fait l'EDEC, Business School. Vous avez aussi bossé à Chicago.
Exactement. J'ai eu la chance de voyager un petit peu durant ma scolarité.
Loyola Université Chicago.
Tout à fait.
Et vous siégez au conseil d'administration de France Digital.
Tout à fait.
C'est une espèce d'alliance, hein, c'est ça, entre entrepreneurs et investisseurs.
Oui, c'est la plus grosse association entrepreneurs-investisseurs qui existe en Europe. Ouais.
Et vous êtes partenaire chez Elaya, qui est un fonds capital risque, c'est ça, hein ?
Exactement.
Depuis quand même quelques temps.
Oui, on a fêté nos 20 ans cette année. On investit pour un peu la stratégie d'investissement. On investit exclusivement en early stage. Donc, on couvre tout le spectre de l'early stage, depuis le pré-seed jusqu'à la série B. On a à peu près 700
early stage,
millions.
Ça veut dire l'early stage, pour ceux qui ne comprennent pas.
Des sociétés vraiment sorties de labo de recherche. D'accord. Jusqu'à un modèle viable commercial, jusqu'à la série B. Donc, quand ça commence à faire un petit peu de chiffre d'affaires... et à avoir un chemin vers la rentabilité. On n'est pas encore rentable, mais on a un chemin vers la rentabilité. Donc, on peut investir sur tout ce spectre assez large de l'early stage. B2B et tech, c'est vraiment l'ADN d'Elaya, tech, voire deep tech. On a à peu près 700 millions d'euros sous gestion. On a fait 150 investissements à date.
Et la part santé,
c'est à peu près 20%. On a fait un certain nombre d'investissements depuis les 5-6 dernières années. On n'a pas été tout seul. On s'est fait accompagner d'experts du sujet, parce que je pense pas qu'on s'improvise dans la santé. C'est un milieu très, très différent de celui qu'on connaissait. Nous, on vient du monde de la technologie, du big data, de l'AI, du machine learning, du deep learning, et maintenant de la generative AI, qu'on essaie d'associer à un certain nombre de verticales, dont la santé, effectivement.
Avec quelques belles réussites ?
Tout à fait, quelques boîtes qui sont passées ici, il me semble. Je pense que Édouard Gasser de Tilac est passé sur votre plateau. Simencure dans la neuro, Inart dans la cardio, Akemia qui fait de l'intelligence artificielle pour le drug discovery. Voilà, un certain nombre de belles boîtes dont on est fiers d'être partenaires.
Alors, vous dites vous-même, je l'ai dit en intro, que le plus compliqué, c'est toujours après l'investissement. Donc c'est vrai que Vous êtes là surtout pour l'amorçage.
Tout à fait.
Vous êtes là pour l'amorçage, mais c'est vrai qu'on dit souvent que après le suivi, quand la boîte a une certaine
En fait, on a deux angles de notre métier. Le premier, c'est effectivement bien sourcer. Mm-hmm. Il faut être assez exhaustif dans la manière dont on chasse, puisqu'on vient, on va chasser des startups pour pouvoir être leur partenaire sur un tour de financement futur. Donc, il faut bien chasser. Nous, on est sur des tailles de portefeuille de l'ordre de 15 à 25 sociétés. Donc, il faut vraiment chasser de manière très qualitative. Mais une fois qu'on a chassé, une fois qu'on s'est convaincu qu'il fallait faire l'investissement, effectivement, le Graal, c'est après. C'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est mis d'accord, qu'on a signé le shareholder agreement, donc le papier qui nous lie et le contrat qui nous lie avec les entrepreneurs, et comment vont se passer les 6-7 prochaines années de notre vie, parce que c'est à peu près en moyenne le temps qu'on passe dans une société, et comment on les accompagne, comment on les accompagne sur leur recrutement, comment on les accompagne sur leur stratégie, parce que dans leur lycée, j'ai quand même tout à faire encore,
bien sûr.
Et tout à penser, et tout à pivoter, et tout à créer, donc on les accompagne sur tous les aspects stratégiques de la société.
C'est quand même un contexte un peu de crise hein, économique. Et, on dit qu'il y a une baisse quand même un peu des investissements d'une manière générale, peut-être.
D'une manière générale, il y a une baisse des investissements depuis début 2022, je dirais. Mm-hmm.
Ce qui était une belle année, 2022.
Et qui est restée une belle année parce qu'on est toujours un petit peu en retard par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, pour le coup, l'année 2022 n'était pas une belle année. Nous, on vit les choses de manière un peu retardée en Europe et en France. Donc, c'est resté encore une belle année. Et puis, dans la santé particulièrement, 22, il me semble qu'on s'approche des 5 milliards de levées pour les sociétés européennes en santé digitale. Et là, à mi-année 23, on est à peu près à 3 milliards de levées. Donc, on va finir l'année toujours en croissance. En tout cas, en santé, c'est pas la catastrophe. Mm-hmm. Le marché a subi une réévaluation, effectivement, parce qu'on avait connu un peu le climax, le pic en 21, avec des valorisations qui étaient celles qu'elles étaient à ce moment-là. On est revenu à des niveaux de valorisation élevés de l'ordre de 2018-2019, qui n'étaient pas des mauvaises années non plus.
Et puis c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'investir en santé. Il y a les marques HCE.
L'investissement en santé est difficile sous plein d'aspects. Effectivement, on a un terrain de jeu d'un point de vue investisseur qui est assez réduit. On a trois typologies d'investisseurs en France sur de la santé, soit des gens pure players de la santé, ils sont assez rares, soit des gens qui viennent plutôt de la biotech et de la medtech et ils essaient d'associer leur stratégie d'investissement à la santé digitale, soit des gens comme nous qui étaient plutôt agnostiques sur des verticales et qui viennent et qui s'intéressent à la santé depuis quelques années. Donc on est sur un terrain de jeu qui est encore assez réduit. On a effectivement des problèmes de réglementation. Le marquage HE est de plus en plus compliqué à avoir. Donc pas mal de nos sociétés partent assez tôt aux États-Unis pour avoir le marquage FDA. Et en plus, d'un point de vue go-to-market, donc vraiment comment on accède aux personas clients, etc., il y a un peu tout à faire et souvent des business models hybrides. On parlait de TILAC. TILAC a commencé à vendre à la pharma pour après aller chercher le remboursement via l'article 51, puis le remboursement via le droit commun. Et on est en train de parler à nouveau à des pharma. Donc on est sur des business models assez hybrides. Mais quand on regarde un petit peu les personas clients, en Europe, globalement, le patient lui-même ne paye pas pour sa santé, à la différence des États-Unis. On peut avoir des modèles B2C, en Europe, ce n'est pas le cas. Les hôpitaux galèrent un peu sur leur niveau de marge, etc. Donc, ce n'est pas les meilleurs payeurs. Les professionnels de santé non plus. Donc, il reste les manufacturiers, les imageurs et les pharma. On est sur des cycles de vente assez longs. Donc, effectivement, le go-to-market est toujours très complexe.
Bon, mais on va quand même terminer sur une note d'espoir.
Moi, je suis... Par rapport à il y a 5-6 ans, quand on a commencé à investir en santé, je vois des très belles levées qui ont été faites, dont TILAC, effectivement, qui a levé récemment 10 millions, et d'autres. Donc, je pense que, en fait, on est à la santé ce qu'on était au software il y a 10-15 ans. Il faut juste être un peu patient et résilient, mais tout ceci est en train de s'ouvrir.
Eh bien, merci beaucoup, Samantha Jérusalem.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Et c'est le moment tant attendu de la chronique e-santé de Rémi Teston, patron de Buzzy Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Rémi Teston, bonjour.
Bonjour Fabien.
Patron de Buzzy Santé, le meilleur influenceur de la France et de sa proche banlieue. J'ai trois questions pour vous. La première, c'est est-ce qu'il faut former les soignants au numérique ?
Aujourd'hui, ils ne sont pas assez formés. C'est fait d'ailleurs partie de la nouvelle feuille de route du numérique en santé. C'est un des axes forts, hein, de pouvoir former et développer les compétences numériques des professionnels de santé, de l'ensemble des soignants, hein, médicaux, paramédicaux. Et d'ailleurs, il y a des initiatives, hein, qui se mettent en place. Il y a notamment la plateforme PIX que vous connaissez peut-être.
Initiative privée, initiative publique.
Alors, c'est un service en ligne public qui existe depuis des années pour évaluer vos compétences numériques, même vous former, pour tous les citoyens. Et là, il développe une offre spécifique pour les professionnels de santé avec la délégation du numérique en santé. Donc, avec cette volonté de développer les compétences numériques. Et puis, il y a des projets qui se mettent en place en région, parce qu'on le sait, il y a peu de gens qui le savent, mais il y a des entités en région qu'on appelle les GRAD, c'est des groupements d'accompagnement au développement de la e-santé, et qui développent en région des programmes de formation pour accompagner les soignants à devenir finalement de mieux en mieux avec le numérique.
Deuxième question, un peu plus débat, un peu plus polémique. Est-ce qu'il faut craindre l'explosion ou tout au moins une fissure de la bulle e-santé ?
Ce qu'on observe depuis quelques semaines, depuis cet été, il y a eu plusieurs sociétés qui sont tombées en redressement judiciaire. Certains ont retrouvé des repreneurs, d'autres non. Et on voit qu'il y a de plus en plus de start-up qui ont du mal à survivre pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un manque de modèle économique flagrant chez beaucoup d'entre elles. Donc ça, c'est un enjeu qui est très important. Il y a un accès au marché qui est très compliqué. Aujourd'hui, il y a de nombreuses start-up qui passent plus de la moitié de leur temps à gérer les aspects réglementaires plutôt que le développement commercial ou créer des usages. Donc ça, c'est un vrai frein. Et puis, il y a eu un effet un peu aussi de tarissement des investissements, ouais, de certains investisseurs. Puisqu'il y a eu un effet post-Covid aussi, où beaucoup d'investisseurs étaient venus un peu par opportunisme sur ce secteur. Mmh. Et du coup, on voit que maintenant, les robinets se ferment un peu.
Et des boîtes d'ailleurs assez connues, hein, qui sont parfois en redressement ou en dépôt de bilan.
Exactement, donc comme Bioserenity, mais qui a retrouvé un repreneur il y a quelques jours.
D'accord.
Ou WeFight dans les chatbots médicaux. Mm-hmm. Ou l'exemple le plus important aussi, c'est Babylon Health, qui était souvent perçu comme un peu une licorne européenne sur ces sujets, qui est en redressement aussi judiciaire.
Alors, pour finir, la start-up du mois.
Alors, c'est Opacare, c'est une start-up nantaise, et qui propose un service assez intéressant. C'est un outil qui permet, à la fin de la consultation, de pouvoir, en temps réel, générer du contenu à donner aux patients. Donc, ça peut être des brochures, des guides d'utilisation de produits, ça peut être tout un tas de documentation pour le patient qui peut envoyer, soit par SMS, par email, ou imprimer et remettre au patient. Donc, c'est pour faciliter la transmission d'informations entre le médecin et ses patients.
Merci Rémi Tesson, merci beaucoup, véritable pilier de l'émission Check-up Santé. On va à présent accueillir Dominique Pont, qui est le directeur général de La Poste Santé et Autonomie.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Dominique Pont, bonjour.
Bonjour.
Habitué quand même de Check-up Santé.
Oui.
Déjà venu. Vous êtes, vous êtes à la base ingénieur télécom. Vous étiez responsable ministériel au numérique en santé. Vous avez piloté le chantier numérique de la stratégie Ma Santé 2022. Vous avez dirigé la clinique Pasteur à Toulouse pendant plus de 10 ans. Et vous êtes donc directeur adjoint de Caposte et directeur général de la nouvelle entité, La Poste Santé et Autonomie. Vous avez un long parcours quand même dans la santé et dans les technologie.
Ah oui, je suis un vieux de la santé, c'est ça Fabien?
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit ancien, mais pas vieux.
Oui, c'est un secteur que j'adore, évidemment.
J'imagine. Donc tout d'abord, juste une petite définition de Docapost. Donc Docapost, c'est le leader des solutions numériques de confiance. Ça veut dire quoi, des solutions de confiance?
En gros, Docapost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste qui va avoisiner le milliard d'euros à la fin de l'année, donc avec un objectif de dépasser 2 milliards d'euros d'ici 2030. C'est donc l'ambition d'être un leader du numérique tout court. Et les services de confiance, c'est tout ce qui permet de gérer avec confiance et dans un cadre souverain tout ce qui se passe autour des données numériques.
Ouais, on peut citer quand même, vous êtes présent sur le dossier médical partagé, vous êtes présent sur l'identité nationale de santé, messagerie sécurisée de santé, c'est bien ça.
En fait,
et vous êtes surtout premier opérateur de données de santé en France.
Oui, avec le dossier pharmaceutique qu'on opère pour l'ordre des pharmaciens depuis de longues dates.
Alors justement, donc quand même l'actualité, c'est la création, il y a à peine un mois, de La Poste Santé Autonomie.
Alors, La Poste Santé Autonomie, c'est le pôle qui regroupe toutes les activités santé et autonomie du groupe La Poste avec deux axes. Un axe autour des services humains de proximité pour les sujets de santé à domicile. Prévention avec des services d'aide et d'accompagnement à domicile, des prestataires de santé à domicile pour les malades chroniques, insuffisants respiratoires.
Les Français veulent vieillir le plus possible à domicile.
Exactement. Notre conviction, c'est que le sujet, c'est le maintien en bonne santé à domicile, sinon le système de santé va exploser. Donc, on croit beaucoup à ça, mais aux services de proximité. proximité de territoire proche des gens. Donc ça, c'est les services humains. Et après, il y a tous les services digitaux autour de l'informatisation, des hôpitaux, des cabinets médicaux, enfin, tous les sujets du numérique en santé. Et on a l'originalité de regrouper les deux autour de cette nouvelle entité qu'est la Poste Santé Autonomie.
Ouais. Et d'autant que vous avez un ancrage, c'est historique, hein, vous avez un ancrage territorial très important avec la Poste.
La Poste, c'est 6 siècles d'histoire de distribution du courrier de proximité avec les citoyens français. Donc évidemment, on vient de ce monde-là, de la confiance du territoire et de la proximité avec les gens.
Ouais. Alors vous avez déjà, vous démarrez, vous avez déjà des partenariats que vous avez concrétisés avec pas mal de d'entités aussi bien publiques que privées.
Oui, exactement. Plusieurs exemples. On vient de signer un partenariat avec l'IHU de Toulouse du professeur Vélas, qui est un IHU autour du bien vieillir, de la gérontologie.
Puisque vous étiez 10 ans à Toulouse.
En tout cas, on se connaissait avec Bruno, oui. Mais je pense surtout ce qu'il a souhaité, Bruno Vélas, c'est confier à un opérateur d'intérêt général, voilà, de long terme, souverain, etc., qu'est le groupe La Poste, à la fois un sujet de plateforme numérique et humaine pour le repérage des fragilités des seniors. C'est son programme, qui est reconnu d'ailleurs par l'OMS, qui s'appelle ICOP, et il a décidé de le confier au groupe La Poste. Ça, c'est un premier exemple de partenariat.
Avec une grosse partie, évidemment, d'intelligence artificielle, ça a l'air maintenant banal de le dire, qui va permettre au sein de l'hôpital de mieux gérer, je veux dire, la prise en charge des patients, d'aller plus vite.
Alors ça, Fabien, c'est une autre initiative. On a créé avec plusieurs industriels français, notamment Dassault, Bouygues Télécom et avec le soutien de la Caisse des dépôts, donc avec Docaposte en chef de file, un nouveau cloud totalement souverain. D'accord. Dont les premières applications vont être autour des données de santé avec toutes les normes de sécurité et de souveraineté pour pas être pieds poings liés aux GAFAM concrètement.
Bien sûr, oui.
Et là-dessus, on a monté une plateforme d'intelligence artificielle générative, totalement souveraine aussi, donc on veut pas être sur ChatGPT Microsoft concrètement pour les données de santé. Et là-dessus, on a monté un premier cas d'usage pour le résumé ou la synthèse médicale, par exemple pour un médecin dans un hôpital qui a plein de données, des comptes rendus d'examen, des transmissions infirmières, des plans de soins, des résultats d'examens divers et variés. Et ça l'aide à faire de la synthèse pour le médecin, pour le professionnel de santé, pour l'infirmière en automatique.
Donc toujours gagner du temps humain avec le patient.
Voilà, et surtout que les professionnels de santé puissent se rapprocher des patients pour être dans une relation de proximité humaine et qu'on les débarrasse de toute la technocratie en quelque sorte et des difficultés administratives.
Vous avez aussi un partenariat avec Medtronic ?
Oui, alors ça, je vous avoue que je suis super fier de ça. Pour la première fois, un gros opérateur de la MedTech mondiale américain,
leaders,
qui est Medtronic,
leaders, oui,
qui décide de confier à un Européen, en fait, le partenariat autour de la data, des parcours patients numériques. Et donc, on a été en concurrence avec des sociétés américaines. Ils ont choisi le groupe La Poste pour les accompagner sur ces sujets de data et de parcours patients numériques. Donc, pour nous, c'est un très, très beau marqueur.
Oui, on a parlé du partenariat avec CareSide.
Alors, notre idée, là, c'est de considérer que les sujets de santé vont beaucoup se passer autour de la santé à domicile. La sortie de l'hospitalisation avec le virage ambulatoire, le vieillissement de la population, le maintien en bonne santé va être clé. Et donc, nous, ce à quoi on croit, c'est que pour faire ça, il faut à la fois avoir des services humains de proximité pour aller voir les gens. On ne doit pas les abandonner, les gens à domicile. Donc, en partenariat avec les acteurs du soin à domicile, nous, on peut les aider à aller voir les gens, apporter du matériel médical pour des maladies chroniques.
Voir le facteur,
exactement.
Éventuellement, ouais.
Pas que, mais voir
bien
aussi
sûr.
Le facteur. Mais en plus, il faut des plateformes numériques parce que tout ça, sans la data, sans des plateformes numériques de suivi du patient, de télésuivi, de télésurveillance, de téléconsultation, de téléexpertise, c'est pas possible.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça qu'on croit que la notion de domicile, d'humain et de digital, c'est intrinsèquement lié.
Et qui permet une coordination entre tous les maillons de la chaîne santé, en fait.
Exactement.
Et de, les soignants, que les...
Et d'organiser le parcours de soins.
Merci beaucoup Dominique Bon.
Merci beaucoup
Fabien. Et on souhaite bonne chance à la Poste Santé Autonomie.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.